Orient Hebdo, Éric Bataillon.
Bonjour. Le Liban est dans une situation difficile, tant sur le plan politique qu'économique, sans oublier le poids de l'afflux des réfugiés syriens depuis le début de la guerre civile en Syrie en 2011. Pourtant, la société civile ne baisse pas les bras et se mobilise. C'est particulièrement vrai dans le domaine artistique, comme le souligne la revue annuelle en français Pictorame dans sa dernière livraison. Dramaturge, acteur, scène et festival, le théâtre est prospère, vivant et novateur. À suivre également la revue de presse, regard croisé sur Israël et le monde arabe, avec Christian Brunel à Jérusalem et Alexandre Boutchanti au Caire.
Orient Hebdo sur RFI.
Les Beyrouth, min qalbi salamun les Beyrouth, wa qubalun.
Pictorame est à la fois un livre et un magazine, son objet de promouvoir la culture et l'art du Liban partout dans le monde. Fondé voici 2 ans grâce au mécénat d'un homme, Robert Mata, Pictorame est disponible gratuitement en 2000 exemplaires sur papier glacé ou directement sur le site www.pictoramemag.com. Nous avons entre les mains le second numéro que nous feuilletons avec sa rédactrice en chef, Randa Sadaka. Bonjour.
Bonjour Eric.
Un numéro d'abord consacré au théâtre sous toutes ses formes, Randa.
Absolument. En fait, nous désirions traiter l'actualité libanaise par le prisme de l'art et de la culture, mais avec un grand dossier annuel, un grand angle qui nous permet de mettre à l'honneur une discipline pour essayer de voir où on en est aujourd'hui au Liban. Et justement, le théâtre s'est imposé des arts scéniques aujourd'hui. C'est une discipline importante au Liban qui connaît de nombreux développements malgré le manque d'infrastructures. Du coup, nous souhaitions justement nous arrêter un peu sur les planches libanaises et voir ce qui s'y passait.
Alors justement, les infrastructures, y en a-t-il quelques-unes qui subsistent malgré les difficultés ?
Alors justement, on a un manque de financement, un exercice solitaire global de l'activité scénique. Néanmoins, le ministre de la Culture au Liban, Monsieur Raymond Aghi, s'exprime sur ces difficultés, annonce de grandes réformes, notamment une maison libano-omanaise qui sera bientôt créée au centre-ville d'ici 2020. Il y a un statut du comédien qui est en train d'être mis en place, enfin qui est mis en place, mais c'est un peu occulte. Donc on part vers un éclaircissement un peu de ce statut. La volonté existe, les moyens suivent difficilement, mais globalement une solidarité se crée avec une volonté de mettre en place de nouveaux espaces pour ces professionnels.
Des professionnels que vous mettez en évidence, notamment Carlos Chahine, par exemple, ou Nadine Mokdessi, qui sont les dramaturges parmi ceux dont vous faites les portraits, puis aussi des acteurs comme Julia Kassar, ou encore Joël Zrek. Alors Joël Zrek, elle milite pour un théâtre francophone exigeant, c'est cela?
Absolument. Pour elle, l'excellence de la langue de Molière doit pouvoir être accessible toute l'année à Beyrouth, donc elle importe entre 4 et 6 pièces. Elle part longtemps en tournée en France pour sélectionner justement ses œuvres en province, dans des festivals à Paris. Donc elle est très très exigeante et elle offre justement un théâtre de qualité francophone exceptionnel et francophile pour le plus grand bonheur des spectateurs. Mais c'est vrai qu'au-delà de ça, comme vous l'avez très bien dit Eric, on est quand même dans une excellence internationale des arts scéniques libanais. C'est assez frappant. Donc vous avez par exemple Wajdi Marwad, célèbre expatrié libano-canadien qui tire son épingle du jeu et qui présente régulièrement ses pièces au Liban, bien qu'elles soient basées sur des codes occidentaux, des codes de création, il explore toujours l'exil avec obsession et il met un point d'honneur à présenter chaque année ou chaque 2 ans une de ses pièces à Beyrouth. C'est très important pour nous. Bien sûr, vous avez le très célèbre Abir Mouré aussi, qui lui est plutôt dans un style de création qui lui est propre et qui est axé aussi sur la perception du passé. Donc on est toujours sur ces thèmes majeurs des conséquences et des séquelles de la guerre. Et ça permet justement d'avoir un certain recul et d'essayer d'analyser cette actualité bouillonnante dans laquelle on est. On a besoin justement de ces outils de compréhension. Carlos Chahine, comme vous l'avez très bien dit. Alors, depuis 2 ans, Carlos, qui brille sur les planches européennes, souhaite importer, donc créer une pièce libanaise ou l'adapter. Cette année, il a adapté donc une pièce de Tchekhov, La Cerisée. Puis on a aussi des actions de terrain local, de proximité. Donc on a des associations comme Shams, comme Zouka, qui sont des collectifs, des ONG, avec un profil plutôt jeune, donc et qui offre expertise et écoute aux professionnels du théâtre qui mènent une action souvent solitaire et qui ont bien besoin d'aide. Et puis, ils offrent aussi, et c'est intéressant, une improvisation, des ateliers d'improvisation, de sensibilisation à l'arsenic, aux profanes.
Alors, comment expliquer cette profusion à la fois de dramaturges, de théâtre, finalement, de troupes au Liban, d'ailleurs avec une certaine correspondance avec d'autres pays plus lointains? Vous avez cité le Canada, mais aussi la France, évidemment, et d'autres pays européens. Comment expliquer ce foisonnement?
Pour comprendre un peu la situation dans laquelle on est aujourd'hui, il faut peut-être regarder quelques minutes en arrière et comprendre ce qui se passait avant la guerre. Et avant la guerre, c'est une action très solidaire et groupée. Puis la guerre a un peu mis à plat ce mouvement novateur, mais on avait déjà des troupes comme le Compteur, le Hakawati, dont l'idée était d'aller dans le terrain, dans la campagne libanaise et dans la montagne pour essayer de rassembler les gens. Et ça marche toujours très très bien aujourd'hui. Et c'est très ouvert et puis il y a les côtés accessibles, il y a des côtés quand même un peu plus ambitieux. Mais l'idée, c'est toujours de remettre en cause un peu la situation dans laquelle on est, d'essayer d'apporter des outils de compréhension. Donc c'est bien dans la lignée de ce qu'on fait dans Pictoram. Et ce qui est admirable, Eric, c'est vraiment sans moyens, avec une infrastructure quasi inexistante. Et donc ces hommes-là, ces femmes-là, pour nous, sont des héros, des héroïnes du quotidien.
Voilà. Alors, parlez-nous précisément de Zoukak. C'est une troupe très particulière qui écrivez-vous, au service de la cause citoyenne. Alors là, voilà, ça fait résonance avec les dernières élections municipales qui ont eu lieu à Beyrouth il y a quelques jours, où des listes citoyennes se sont présentées. Et ça, c'est une nouveauté. Est-ce qu'il y a un mouvement citoyen qui émerge, et notamment chez les artistes?
Le mouvement citoyen est beaucoup émergé il y a quelques mois à l'occasion de la crise des poubelles qu'on traverse toujours plus ou moins, malgré qu'on essaie d'avoir une sortie de crise. Les artistes étaient quand même assez présents tous dans leur ensemble dans les premières manifestations. Malheureusement, le mouvement a été récupéré, un peu comme Nuit Debout en France, par certains extrémistes, tant et si bien que les manifestations ont cessé. Et puis la société civile et ses artistes, il y a eu comme ça une volonté de vouloir marquer un peu son dégoût profond de la crise que traverse le pays et à plusieurs niveaux. Donc ces élections municipales qui se sont passées il y a plus d'une semaine à Beyrouth et dans la plaine de la Beka, ça a été l'occasion pour de nombreux intellectuels et artistes de se présenter sur des listes alternatives. Néanmoins, des collectifs comme Shems, comme Zoukak, sont des mouvements associatifs apolitiques et ils sont d'ailleurs très fiers et revendiquent vraiment cette liberté, cette non-appartenance de la sphère publique, mais ils sont aussi au service de la société. Puisqu'ils font beaucoup d'actions pédagogiques, théâtrales. Ils vont volontiers à la rencontre des enfants dans les écoles, faire connaître les grands dramaturges libanais. Puis surtout, ils sont sur le terrain, dans les camps de réfugiés palestiniens, syriens. Ils vont également dans les hôpitaux. Donc c'est vraiment des collectifs au service de la cause citoyenne, dans ce sens qu'elle l'a fait réfléchir, on fait réfléchir le citoyen. Et en même temps, on est à son service, on lui offre un peu une initiation au théâtre et des outils de compréhension, de remise en question. Ce sont des gens très engagés pour qui nous avons vraiment une profonde admiration, avec encore une fois des moyens quasi nuls.
Et donc on peut faire de la politique en dehors du champ politique traditionnel.
Je crois qu'en effet aujourd'hui au Liban, vous pouvez être un citoyen modèle et ne pas aller voter.
Alors dans ce second numéro de Pictoram également, vous explorez la place de l'art au Liban et on découvre une richesse incroyable de galeries, de foires, d'expositions. Là encore, on est un peu surpris que dans un pays en difficulté finalement comme le Liban, qui est tout près de la Syrie, qui est en guerre, il y ait ce foisonnement artistique.
Justement, oui, on a une ruée vers l'art au Liban et il est évident qu'il fallait qu'on offre un panorama de nos galeries et de nos musées. Et puis surtout mettre en évidence des artistes donc émergents, établis, un mécénat salutaire qui est assuré pour la société civile encore une fois. Et surtout ce qu'on a voulu faire cette année pour la première fois, c'est mettre en avant les bons mots des autres, ceux d'une presse culturelle vaillante qui maintient le cap en eau trouble. Donc on rend hommage à L'Orient le Jour, à sa page culture, au Saphir francophone, à l'agenda culturel. Et c'était vraiment une façon de nous associer à nos confrères, puisque nous ne sommes pas du tout dans le journalisme d'actualité, mais d'investigation, donc du grand reportage, mais de saluer cette presse culturelle francophone qui fait un travail vaillant sur le terrain, de critique également. et qui accompagne toutes ces galeries. Et vous avez donc un nombre d'événements incroyables par jour à Beyrouth, des festivals aussi.
Oui, notamment Baalbek ou encore le festival de Beit Edin dont vous parlez dans la revue. Alors, à la fin de la revue, justement, on trouve une tête de chapitre curieuse. Trust, avec une photo de Barack Obama aux côtés d'une femme. Qui est cette femme et que fait-elle?
Alors, chaque année, on a décidé de mettre en avant une fondation ou un trust qui est dans la bienfaisance au Liban, mais plutôt parfois culturelle, associative. Le trust Agnès Varus, c'est le nom, en fait, d'une dame de cœur aux États-Unis qui est décédée, qui a fait fortune dans les médicaments et qui a fondé un trust posthume. Elle était amie d'Obama, en effet, elle a concouru à son élection en finançant largement, justement, le Parti démocrate. Et plus de 5 millions de dollars ont été distribués au Liban par le Trust, donc après sa mort. Quelqu'un comme Jenna Dakash et ses documentaires engagés au service des prisonniers a bénéficié en grande partie de cette somme. Nous avons aussi Arc-en-Ciel, l'association libanaise de sauvegarde du patrimoine, de réinsertion des gens en difficulté et très impliquée dans l'écologie également. Donc bon, il y a eu des bénéficiaires au Liban qui sont des acteurs socioculturels importants. Et justement, il nous tenait à cœur de mettre en avant, puisque Pictoram est la publication, comme vous l'avez dit, de la Fondation RAM, mais de mettre en avant d'autres fondations.
Alors finalement, Randa Sadaka, à l'issue de ces 200 pages d'enquête et de portraits, y a-t-il des valeurs communes à ces artistes et à ces mécènes qui se dégagent?
Je crois que ces mécènes, finalement, forment un pilier, le pilier de la société libanaise, et que leur volonté commune est de faire briller le Liban, Beyrouth, sur la scène internationale, d'offrir une autre image du pays, au-delà de la crise des poubelles et des difficultés politiques. Et donc, moi, j'aimerais juste citer la donation qu'a faite la RAM au musée d'art moderne du Centre Pompidou en 2014, avec trois œuvres d'artistes libanais émergents, Marwan Rechmaoui, Lami Ajrej et Monira Al-Soloh. Donc, c'est quand même l'un des musées les plus importants au monde. Et ainsi, la création contemporaine libanaise y fait ses premiers pas. Donc, c'est l'action mécénale dans toute sa splendeur.
Merci, Randa Sadaka, rédactrice en chef de la revue libanaise Pictoram et du site pictoramag.com.
Merci, Eric.
Nous allons maintenant au Caire et à Jérusalem où nous attendent Alexandre Bouchanti et Christian Brunel pour lire la presse de la semaine. Bonjour Alexandre.
Bonjour.
Bonjour Christian.
Bonjour.
Christian, Avigdor Lieberman est la vedette de la semaine en Israël.
Effectivement, cet ultranationaliste qui a décroché le poste clé de ministre de la Défense fait la une de tous les médias depuis plusieurs jours. Les commentateurs ont tenté chacun à leur manière de savoir si Avigdor Lieberman allait mettre à exécution ses déclarations « va-t'en guerre » comme celle où il a menacé de mort Ismaël Haniyeh, un dirigeant du Hamas à Gaza, proclamé que Mahmoud Abbas, président de l'autorité palestinienne, est, je cite, un terroriste politique, et proposé il y a quelques années de bombarder le barrage d'Assouan en Égypte pour tenter de rassurer Benjamin Netanyahou, a mené une campagne médiatique pour proclamer qu'il restait le véritable patron, bref, qu'il allait placer Avigdor Lieberman sous haute surveillance. Le nouveau ministre, qui doit entrer en fonction la semaine prochaine, a lui aussi tout fait pour apparaître comme un modéré. Cette stratégie de communication a été partiellement payante. La plupart des éditorialistes, après avoir crié casse-cou, se montrent plus prudents et attendent de juger Avigdor Lieberman sur pièce.
Alors Alexandre, cette nomination d'Avigdor Lieberman soulève aussi de nombreuses réactions dans la presse arabe.
Oui, évidemment, les journaux ressortent toutes les déclarations anti-arabes de Lieberman, du transfert des Palestiniens au bombardement du haut barrage d'Assouan en Égypte, et envoie un commentateur qui dit « ce sera encore pire alors que l'on pensait avoir touché le fond avec le gouvernement Netanyahou ». Et puis une nomination qui va empêcher tout espoir de dégel avec l'Égypte, selon un autre commentateur, un espoir qui était soutenu par Tel Aviv après les déclarations du président Abdel Fattah el-Sissi sur un tiédissement des relations avec Israël si les négociations reprenaient sérieusement avec les Palestiniens.
Alors voilà pour cette nomination. Alexandre, les journaux égyptiens reviennent également sur l'agression d'une vieille femme chrétienne par une foule fanatisée.
Oui, tout à fait. Ça s'est passé dans un village de Minya, en Moyenne-Égypte. Près de 300 musulmans ont attaqué, saccagé, pillé et brûlé des maisons de chrétiens, puis ils ont traîné dans la rue, après l'avoir déshabillé, une vieille copte de 70 ans. Alors tout cela à cause d'une rumeur selon laquelle un chrétien du village aurait eu une relation avec une musulmane. Alors les journaux citent cette dernière qui explique que c'était simplement une rumeur qui avait été lancée par son mari parce qu'elle avait demandé le divorce. Alors pour Alioum Sabah, qui est proche du gouvernement, il s'agit d'un fait divers et non d'un conflit confessionnel. Tandis que pour Al-Maqal, qui est d'opposition, l'État est nu après ce scandale pour n'avoir pas prévenu des agressions pourtant annoncées la veille.
Dans votre actualité, Christian Brunel, la visite de Manuel Valls en Israël et dans les territoires palestiniens, quel accueil pour le Premier ministre français ?
Eh bien écoutez, les médias israéliens ont consacré peu d'attention à la visite du Premier ministre français. Ses déclarations jugées pro-israéliennes ont certes été appréciées, mais l'initiative française pour une conférence internationale destinée à favoriser une relance des négociations israélo-palestiniennes au point mort depuis des années a été jugée irréaliste dans la mesure où Benjamin Netanyahou ne veut pas entendre parler et exige des négociations directes avec Mahmoud Abbas.
Alors justement, Christian, à ce propos, les médias israéliens font état d'une possible médiation du président égyptien Abdel Fattah al-Sissi.
En effet, selon le quotidien Yedioth Ahronot, le président égyptien tenterait d'organiser un sommet Netanyahou-Abbas au Caire et des diplomates israéliens se seraient rendus en Égypte pour tâter le terrain. Benjamin Netanyahou entretient lui aussi les rumeurs en évoquant des initiatives qu'il pourrait prendre avec l'aide, je cite, de dirigeants arabes de la région. Mais comme le souligne le Haaretz, un quotidien d'opposition, il est pour le moins douteux qu'à la tête d'un gouvernement le plus faucon de l'histoire du pays, il dispose de la moindre marge de manœuvre pour faire des concessions aux Palestiniens.
Alors Alexandre, plusieurs journaux arabes couvrent en une le dialogue stratégique entre la Russie et les pays du Golfe qui s'est déroulé à Moscou.
Oui, et selon les journaux, la conférence qui n'a pas permis de régler les divergences entre Moscou et Riyad sur la Syrie, et Bachar el-Assad précisément, a permis toutefois de faire un certain rapprochement entre la Russie et les pays du Golfe, à un moment où les pays du Golfe prennent leur distance à l'égard des États-Unis. Alors des éditoriaux reviennent aussi sur le désengagement américain de la région et la montée en puissance de l'Iran.
Alexandre, être gynécologue en Arabie Saoudite n'est pas un métier facile, selon Al-Quds Al-Arabi.
C'est même un métier à très haut risque. Alors, selon Al-Quds Al-Arabi, un gynécologue a été appelé d'urgence pour aider sa consœur dans une opération d'accouchement compliquée dans l'hôpital Fahd à Riyad. Le médecin a sauvé la mère et l'enfant et, pour le remercier, le père a sorti un pistolet et lui a tiré dessus. Pas question pour ce Saoudien conservateur qu'un homme voit sa femme nue, même si c'est pour lui sauver la vie. Alors les jours du médecin ne sont pas en danger, même s'il a reçu une balle qui a traversé le poumon.
Alors Christian, dans un tout autre domaine, Benjamin Netanyahou a été mis en cause pour ses frais de voyage.
Effectivement, les médias ont fait leur une sur un rapport du contrôleur de l'État chargé de vérifier les comptes publics. Dans ce document, Benjamin Netanyahou est épinglé pour avoir accepté que plusieurs de ses voyages, lorsqu'il était ministre des Finances, soient financés par des hommes d'affaires étrangers actifs en Israël. Une pratique qui prête le flanc aux accusations de conflit d'intérêts. Les éditorialistes du quotidien Maariv s'en sont donnés à cœur joie pour dénoncer les pratiques, je cite, de la famille royale Netanyahou. Mais il ne semble pourtant pas que Benjamin Netanyahou soit menacé. Israël Hayom, un quotidien pro-Netanyahou, a d'ailleurs titré avec joie « Déception à gauche, le rapport ne fera pas tomber le Premier ministre ».
Christian, votre photo du jour, c'est celle d'un ballet de nu qui paraît-il fait scandale.
En effet, un ballet dont les 12 danseurs hommes et femmes apparaissent nus sur scène, qui doit être présenté dans quelques jours au Festival de Jérusalem, a suscité la colère des juifs religieux qui estiment que cette chorégraphie autrichienne devrait être interdite car, je cite, elle désacralise la ville sainte. Pour le moment, le spectacle est maintenu.
Merci Christian, merci Alexandre. Orient Hebdo, une émission réalisée par François Porcheron. Vous pouvez nous retrouver sur le site de la radio www.rfi.fr, rubrique émission, ainsi que sur notre page Facebook. À samedi prochain, passez une bonne semaine à l'écoute de RFI. Tout de suite, un nouveau journal.